France Inter.
Critique d'art, écrivain et ancien rédacteur en chef de la revue Art Press, Jean-Yves Joannet est également commissaire d'exposition, cofondateur de la revue Perpendiculaire et enseignant aux Beaux-Arts de Paris. Ayant œuvré pour la télévision, la presse et les musées, il a notamment publié « Des nains, des jardins, essais sur le kitsch pavillonnaire », Prolégomène à tout château d'eau ou encore L'idiotie, art, vie, politique, méthode, sujet qui a aussi donné lieu à une exposition. Auteur du roman Jésus, Hermès, Congrès et de l'essai L'usage des ruines, notre homme a aussi inventé l'écrivain Félicien Marbeuf, auquel il a consacré une exposition collective à la Fondation Ricard, et un livre, Artiste sans œuvre, réédité avec une préface d'Enrique Villamatas, qui est venu nous rendre visite, et ce n'est guère étonnant quand on connaît le goût de ce dernier pour l'entremêlement du réel et de la fiction. Ce qui n'est guère étonnant, ce n'est pas qu'il soit venu nous rendre visite, c'est qu'il ait travaillé avec notre invité. Comme Jean-Yves Joannet semble prendre le jeu au sérieux, il a aussi fait paraître une correspondance entre Proust et le Marbeuf en question. Alors j'ai commencé par l'aspect léger, entre guillemets, du travail de notre invité. Voici son pendant, l'une des choses les plus tragiques régnant sur notre globe, la guerre. Depuis 2008, le chercheur tient un cycle mensuel de conférences performances filmées au Centre Pompidou, à la Comédie de Reims et dans divers autres lieux, intitulé l'Encyclopédie des guerres, cycle dans lequel il explore par entrée alphabétique les techniques, symptômes et représentations du conflit militaire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Son dernier roman, Une forêt, chez Albin Michel, réunit ses inclinations en une harmonieuse partition tragicomique. Nous sommes en 1947. Jacob Michael Lenz, juriste et capitaine dans l'US Army, erre dans la ville de Brême, dévastée. On lui a confié une mission plus que déroutante, impliquant des oiseaux chantant des hymnes nazis. Les volatiles, doués de paroles, sont devenus l'écho du vacarme guerrier ayant résonné dans leur forêt. Dès lors, dans une entreprise de dénazification allemande, peut-on prouver la culpabilité de ces oiseaux, voire les attaquer en justice? Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Bonsoir Jean-Yves Joannet.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
De venir ici, vous parlez d'une forêt, parce que c'est un récit assez ancien, je l'ai fini il y a longtemps, mais il est tout frais pour moi, et donc je suis très content d'en parler aujourd'hui.
Vous l'avez fini à combien de temps?
Il y a 2 ans environ.
Ah oui, c'est le temps d'impression. Vous êtes une autre personne depuis?
Oui, tout à fait. Mais j'ai des bons souvenirs de ce livre, et encore une fois, je suis assez troublé par ce que vous disiez en ouverture. Ça me trouble. Le fait est qu'il y ait peut-être eu dans ma vie un intérêt pour les choses légères, fantaisistes, l'invention et la drôlerie, et puis un autre pan qui serait rattaché à la part de l'ombre, de la guerre. C'est tout à fait possible, mais je ne l'ai jamais envisagé de cette sorte.
Surtout que vous avez réuni les deux dans un livre, pardon, dont j'ai oublié le titre, La Bibliothèque 2.
Hans-Reiter.
Voilà, où vous vous demandez littéralement si la guerre est une blague qui a mal tourné.
Exactement, oui. Parce que ça se passe souvent entre des peuples et des nations qui, par décision, ne parlent pas la même langue. C'est l'histoire de la Tour de Babel. Et peut-être veut-on faire des blagues qui ne sont mal comprises, voilà. C'est une hypothèse.
Mais alors on va commencer justement par l'humour et par l'absurde. Vous aviez fait une exposition, Le fou dédoublé, l'idiotie dans l'art du XXe siècle, à Moscou, en 2000, et dans d'autres villes russes. Et il y avait beaucoup d'artistes français et russes. Pourquoi russes?
Parce que Dostoïevski et son idiot étaient...
Qui est l'innocent.
Oui. En fait, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup troublé quand j'avais étudié l'idiot Dostoïevski. Dostoïevski écrivait à quelqu'un de sa famille, peut-être sa belle-fille, et disait, en fait, dans la littérature mondiale, il y a eu des hommes bons, il n'y en a pas eu tant que ça, il y a eu Jean Valjean, il y a eu Mr. Pickwick, et puis il y a eu le Christ, tout de même, qui n'est pas un personnage de roman, et moi, si je veux inventer un homme parfaitement bon, il faut que ça soit un idiot, parce que il n'y a pas d'autre choix. Et donc ce choix de l'idiot pour dépeindre un homme parfaitement bon m'avait beaucoup bouleversé. Et cet idiot de Dostoïevski était un peu une des sources du projet à Moscou.
On le retrouve dans votre essai « L'idiotie, art, vie, politique, méthode » aux côtés de Satie, Magritte, Lars von Trier, Stendhal. Et donc en fait, c'est l'idiotie délibérée, contrôlée, la bêtise volontaire que vous traitez.
Oui, idiotesse en grec, quoi, ça fait un peu pédant, pardon, mais je vais être bref. Mais idiotesse, c'est ce qui ne préexiste pas à lui-même, ce qui n'a pas de double, ce qui est unique.
En gros, c'est la définition de Clément Rosset dans son traité d'idiotie.
Voilà, je ne fais que plagier Clément Rosset. Mais en tout cas, c'est cette idiotie qui m'intéresse dans l'histoire de l'art, et de l'art moderne en particulier, puisqu'il y a un moment donné, très précis, ou peut-être pas si précis que ça, c'est Manet, on ne sait pas trop à quel moment, mais où il faut... Et on attend de l'artiste qu'il produise des objets absolument singuliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas existé avant eux, donc idiots par définition, mais c'est pas injurieux en ce sens-là.
Alors c'est quoi votre définition d'idiotie et le sommes-nous tous ?
Mais moi, j'écris sur des choses que je ne comprends pas. Je ne parle que de choses que je ne maîtrise pas, parce qu'autrement, ça m'ennuie. Et donc, écrire sur l'idiotie, c'est parce que j'aurais aimé être un idiot... merveilleux, une espèce de dandy que je ne suis pas, et donc c'est pareil, on écrit sur les... on fait des westerns quand les Indiens ont disparu. Voilà, donc on ne parle que des choses qui ne sont pas dans le paysage, et moi je n'ai pas connu la guerre, donc j'essaye de comprendre ce que la guerre me fait, donc je suis érudit en rien, et je ne maîtrise rien des objets avec lesquels je jongle.
Vous avez d'ailleurs même fait une exposition, il me semble, sur la guerre, mais hors champ. C'est-à-dire la guerre désincarnée, ce qu'on ne voit pas.
Oui, ça c'était une des premières expositions du Bal, c'est un lieu d'exposition à Paris, autour de la place de Clichy, qui est un lieu merveilleux dédié à l'image, on va dire, au sens large. Et c'était un projet d'exposition ayant trait au champ de bataille, photographié, documenté après les batailles et bien après les guerres.
L'absurdité, il est quand même question d'intelligence dedans, puisque ça demande de l'abstraction.
Oui, mais ça traite surtout de mélancolie.
Ah oui ?
Oui.
Alors ça m'intéresse.
C'est vrai. En fait, sérieusement, si l'on parle du roman, une forêt...
On ne parle pas du roman tout de suite, mais si vous voulez en parler tout de suite, allez-y.
Parce que le roman finit par... je finis par comprendre que c'est une synthèse de choses qui m'ont perturbé, intrigué, bouleversé depuis longtemps. Et que... même ce Félicien Marbeuf que vous avez évoqué, qui est quelqu'un qui est cher à mon cœur, le plus grand écrivain sans œuvre.
Que vous avez inventé très tôt.
Oui.
À 20 ans.
J'avais 18 ans. Il m'accompagne depuis, donc je lui dois beaucoup. Je compte monter un colloque, là, autour de Félicien Marbeuf, de cette figure inouïe de la pensée contemporaine, de la pensée moderne en tout cas. Mais encore une fois, c'est une figure à la fois pathétique, comique, drôlatique et singulièrement mélancolique. Aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, il y a eu un point de départ, et je peux le... Alors pour le coup, là, je vais le dire parce que ça m'importe. C'est le 8 octobre 1981, c'était un jeudi, et c'est le premier concert de Cure. Moi, j'ai 15 ans ou 16 ans, je suis étudiant à Poitiers, je suis au lycée, et c'est un copain qui m'a emmené à ce concert et qui a été la chose la plus inouïe de ma vie, jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien justement, c'est votre choix musical, The Cure, on l'écoute tout de suite.
Thank you.
C'est votre choix musical, Jean-Yves Joannet. A Forest, des Cure sur l'album 17 Seconds. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Donc 17 Seconds, c'est le deuxième album de The Cure, qui sort en 1980. Et c'est pour beaucoup de gens de ma génération un accès inédit à ce qu'on appelait la Cold Wave, mais l'appelait-on ainsi à l'époque ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à cette qualité de musique qui entraînait un type de sentiment qui était essentiellement la mélancolie. Voilà. Donc, moi, j'avais pas lu Baudelaire. Mais là, il y avait, avec ce son, cette sonorité, un accès à ce que j'appelle aujourd'hui la mélancolie, qui résonnait très étrangement parce que mon père écoutait des Requiem et mon frère et moi, voilà, le dimanche, le week-end, c'était fourré, c'était sa musique à lui, c'était la musique des adultes. Et pour le coup, là, je trébuchais sur des Requiem qui pouvaient être les miens. Voilà. Donc c'est l'histoire de l'entrée en mélancolie.
Les explications que je donnerais moi plus sur la prolifération du Nain de Jardin, c'est cette image immédiate de bonheur, sans conceptualisation, c'est-à-dire ce bonheur vous saute aux yeux, il vous permet une certaine confidence. Vous pouvez vous confier au Nain de Jardin, il ne bougera pas, il ne changera pas, il ne vous répondra pas. Le Nain de Jardin, à bien des égards, peut être considéré comme le Freud du pauvre, c'est-à-dire comme quelque chose qui permet à la fois de revisiter son enfance, de se remémorer son enfance, et un confident qui, comme le psychanalyste, ne vous répondra pas, qui vous écoutera sans conséquence.
On entend Daniel Geff, organisateur du Congrès international des Nains de Jardin, dans le documentaire La fabuleuse histoire des Nains de Jardin de Jean-Paul Capitte, sorti en 2000. Jean-Yves Joannet, vous avez publié en 1999 Des Nains, des Jardins, essai sur le kitsch pavillonnaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé à cela ?
C'est une question piège parce que c'est pas un livre, c'est un livre de jeunesse. Ce que je dirais aujourd'hui de cette idée du kitsch, c'est que elle est passionnante du point de vue très sérieusement de l'esthétique. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, j'enseigne dans une école des beaux-arts et que je suis souvent amené à expliquer que le kitsch n'est pas le mauvais goût. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que le kitsch ?
Kitschen en allemand, c'est faire du faux avec du vrai ou faire du vrai avec du faux. C'est des personnes qui veulent vous vendre une table 17e en faisant croire qu'elle est moderne ou une table moderne en faisant croire qu'elle était dans tel château Renaissance. Et donc, c'est truquer le matériau pour vous faire croire que voilà, vous achetez des choses que vous... Le kitsch a toujours à voir avec le mensonge dans le domaine industriel comme dans le domaine politique. Le kitsch a été la marque des arts sous les grandes tyrannies. C'est aussi la réalité du monde industriel.
Avec une notion de mensonge.
De mensonge, toujours. Donc il y a une caractéristique industrielle au kitsch. C'est pour ça que quand on parle des nains de jardin, c'est une chose, mais si vous achetez des nains de jardin produits en série en Chine pour les installer dans votre jardin, c'est tout à fait autre chose que de bricoler dans votre garage des nains que vous bricolez avec de la glaise, avec des bouts de fil de fer, avec vos enfants, avec vos... Voilà, où là, il y a véritablement création. Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'art dans le domaine du kitsch. C'est ça un peu qu'on peut dire sûrement.
Je me suis écroulé au rayon des fromages. Il y avait deux vieilles dames qui portaient des sardines. La première se retourne et dit à sa voisine: c'est bien triste quand même, un garçon de cet âge. Et puis j'ai vu des pieds circonspects très larges. Il y avait un vendeur qui prenait des mesures. Beaucoup semblaient surpris par mes nouvelles chaussures. Pour la dernière fois, j'étais un peu en marge.
Hypermarché Novembre, poème de Michel Houellebecq chanté par le groupe Un Suicide Français. Jean-Yves Joannet, vous avez été le commissaire de l'exposition Lost in the Supermarket à la Fondation Ricard sur l'intervention de l'artiste sur un mode mineur au sein de ces espaces, je cite le communiqué de presse, unanimement méprisés. Est-ce que vous aimez ce qui peut, je mets bien des guillemets, prêter au ridicule ? Et vous avez peut-être une sorte de tendresse pour cela ?
Moi, j'aime bien me ridiculiser, titre personnel, sans être vraiment masochiste, j'aime bien me faire rire moi-même. Après, il y a ce que je disais tout à l'heure, à savoir que je n'arrive pas personnellement à faire la part des choses entre ce qui m'émeut, ce qui m'énerve, ce qui m'insupporte et ce qui me bouleverse, et qu'il y a une part de toutes ces choses-là dans les objets que je contemple ou les œuvres que j'aime. C'est vrai que j'ai du mal avec des œuvres qui veulent absolument vous intimider.
Ça, qui se prennent au sérieux.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Strictement au sérieux. C'est quelque chose qui me... J'ai toujours détesté Christian Boltanski, je l'ai écrit, j'ai eu des haines farouches contre des artistes qui sont pour moi des imposteurs, mais ce n'est que mon point de vue. Mais justement, quand il n'y a pas cette prise de risque, ce flirt avec le grotesque ou le ridicule, moi je n'y crois pas, en tout cas je ne veux pas y croire.
Alors en parlant de croire ou de ne pas croire, c'est drôle parce qu'il y a une chose qui est tout de même le fil rouge de tout ce que vous écrivez, enfin il me semble, c'est l'absence d'œuvre ou le fait que quelque chose existe ou n'existe pas. Et je pense, par exemple, vous avez fait trois choses autour des châteaux, les châteaux d'eau, le traité de castellologie, les barrages de sable et les châteaux de sable. Et dedans, il est question, dans le premier que j'ai cité par exemple, de ce que n'a jamais écrit Gustave Flaubert. Qu'est-ce que c'est que cette obsession avec ce qui n'existe pas, ce qui est absent, l'invention pure, la fiction pure?
Alors, c'est drôle que vous releviez ça, parce que j'ai une réponse à ça, mais elle ne vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas d'invention dans ces histoires-là. C'est-à-dire que je pars du principe que nous sommes tous incultes, que les bibliothèques sont infinies, que nous ne vivons pas 1500 ans sur cette terre pour découvrir tous les livres et voir tous les tableaux. Et donc, il y a toujours une espèce de pari. Je préfère inventer plutôt que de passer 10 ans à découvrir. C'est-à-dire que Félicien Marbeuf, je l'ai inventé quand j'avais 18 ans, mais c'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est parce que je j'ai pas le temps de le découvrir, mais sûrement dans une civilisation perdue sous un autre nom, une autre identité, il a existé plein de Félicien Marbeuf, mais par peut-être désir de faire exister les choses dont je rêve, je me débrouille tout seul.
Ça s'appelle l'encyclopédie des guerres. Il faudra que j'explique pourquoi et surtout pourquoi c'est pas une encyclopédie des guerres. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que ça se présente comme une espèce de grand inventaire de citations, de bouts de textes que moi je n'ai pas écrits, entrées, et qui sont constitués en entrées alphabétiques. Et l'idée, c'est de lire intégralement cet inventaire qui compte 800 pages aujourd'hui, mais heureusement pour vous, de l'entrecouper de commentaires et de gloses, puisque j'essaye de m'expliquer à quoi sert cet objet, à quoi il renvoie en termes d'obsession, de savoir, etc.
2008, extrait de la première de vos conférences performances du cycle L'Encyclopédie des guerres, Jean-Yves Jouannet, accessible en ligne. Donc là, bon, vous vous attendez à la question que je vais vous poser, puis on a dû vous la poser des centaines de fois. D'où vous vient cette obsession de la guerre? Et j'aimerais bien que vous commenciez au livre que vous avez composé à l'âge de 12 ans et que vous avez oublié.
Mais vous sortez des dossiers inouïs. Wapitou, le petit indien, c'était son titre. Vous parlez de ça?
Peut-être.
Ah, vous ne connaissiez pas le titre?
Si, c'est peut-être. Votre mère vous a rappelé l'existence de ce livre?
Oui.
C'est votre premier livre sur la guerre?
Tout à fait, oui. Les guerres indiennes, en effet, étonnant. Oui, j'écrivais sur un petit fauteuil en rotin, dans un petit classeur rouge en plastique, et je mettais des œillets sur les pages, et j'écrivais. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai écrit une dizaine de chapitres de Wapitou, le petit indien, qui était, en effet, vous avez raison, je n'ai pas fait le lien, déjà un récit de guerre, tout à fait. Et donc, oui, ça commence tôt, ça commence avec des petits soldats, c'est des histoires de petits garçons des années 70-80, avec des maquettes d'avions, de chasse, des petits soldats, je l'ai dit. Et puis pourquoi ça continue? Ça a continué tard, puisque ça s'est achevé, l'Encyclopédie des guerres, l'année dernière, en 2024. Et ce que je cherchais à y faire, c'est une chose très particulière, qui est de nouveau entre la drôlerie et le sérieux, entre le Requiem et les théâtres aux armées, une enquête personnelle qui est véritablement une psychanalyse, puisque beaucoup de psychanalystes venaient à l'Encyclopédie des guerres et me disaient que j'étais en analyse devant 180 personnes. Ça me faisait ricaner un peu bêtement. Et le fait est que c'est ce que je faisais. Et puis, j'ai passé 16 ans à essayer de découvrir ce qui m'intriguait moi-même dans cette chose-là, ce territoire de la guerre, envisagé non pas comme un reporter de guerre, puisque je n'ai jamais pris le risque d'aller à la guerre ou de rencontrer la guerre, mais sous la forme d'une bibliothèque que j'ai constituée pendant 20 ans. Je n'ai lu pendant 20 ans que des livres de guerre et n'ai vu que des films de guerre. J'ai cherché, parmi toutes ces entrées, l'entrée où quelque chose vibrait. Enfin, je portais ces mots à mon oreille et j'essayais de savoir si ce mot me concernait. Et c'est à l'entrée noyade, bizarrement, que j'ai su que j'avais trouvé ce que je cherchais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, peut-être à nouveau pour revenir à la mélancolie de votre père ?
Oui, mon père était quelqu'un de très triste. J'ai une théorie sur la tristesse des pères. Si j'avais du talent, ouais, j'écrirais un livre sur la tristesse des pères.
Mais vous en avez arrêté. Parce que là, je vous parlais de la noyade et il y a une histoire familiale qui la concerne.
Oui, oui. Mon grand-père maternel, Jean Jouannet, s'est noyé à l'âge de 31 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, pendant ce qu'on appelle une période de réserve à la caserne de Montluçon. Il est mort donc sous l'uniforme français et il laissait deux enfants, mon père, Jacques, qui avait 3 ans, et sa petite sœur, Marie-Thérèse, qui avait quelques mois. Ces enfants ont été reconnus par la nation comme orphelins de guerre, sont devenus immédiatement pupilles de la nation. Et ma grand-mère a commencé à recevoir en 1948 des courriers de plus en plus pressants et inquiétants du ministère des anciens combattants, stipulant que c'était de manière erronée et fautive que ses enfants aient été adoptés par la nation parce que son mari n'était pas mort d'un fait de guerre, n'était pas mort face à l'ennemi. Et donc on a retiré ce statut et cette aide à ses enfants et à ma grand-mère. C'était une chose connue dans la famille, mais parlant de noyade à l'Encyclopédie des guerres, je me suis entendu raconter cette histoire, et puis, soudain, j'ai parlé de la tristesse de mon père, qui, mon père, en effet, était quelqu'un de très triste, et je n'avais, parce que n'ayant jamais parlé avec lui vraiment, je n'avais jamais percé le mystère de cette tristesse, et je me suis dit, là, en conférence, devant un public, je me suis dit, mais comment aurait-il pu être autre chose que terriblement triste. C'est l'histoire d'un enfant qui perd son père à 3 ans, c'est une chose, mais la patrie, ce qu'on appelle la patrie, c'est-à-dire le cénacle symbolique des pères qui constituent la nation, se réunissant pour lui dire et lui affirmer « Non, nous ne t'adoptons pas. Tu ne seras pas notre fils parce que tu ne le mérites pas. Comment ne pas être accablé jusqu'à la fin de ses jours ?» Voilà. Donc c'est pour synthétiser, je dirais que l'Encyclopédie des guerres n'a été égoïstement pour moi que le moyen de percer le secret de la tristesse de mon père, que cette encyclopédie aurait dû s'appeler l'encyclopédie de la tristesse des pères, beaucoup plus justement que l'encyclopédie des guerres, dont je n'ai rien compris, parce que les guerres, on les vit pas, on peut jongler avec les citations et pas l'approcher d'un iota. Je sais évidemment pas plus aujourd'hui ce qu'est la guerre que quand j'ai commencé en 2008.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Je vais raconter cette guerre, d'abord parce que la lutte fut sévère et dure, et puis parce que la victoire fut longtemps incertaine. Ces hostilités déterminèrent un bouleversement général de toutes les choses divines et humaines, et en vinrent à un point de violence telle qu'elles se terminèrent par la dévastation du monde connu. C'est une histoire vraie, plus ou moins. Tout ce qui touche à la guerre, en tout cas, n'est pas loin de la vérité. Ce qui est sûr, c'est que le temps de délibérer était passé et celui d'agir enfin venu. Toutes les chances de la paix, tous les espoirs de vie, tu les as déchirés. Maintenant, tout est prêt. Mes guerriers, mes chevaux, mes chars, mes éléphants, des millions d'armes, les convois de vivres, les entrepôts, les forges, les tentes pour les blessés, les bûchers pour les morts, les musiciens, les devins, les serpents venimeux. Mes ordres sont donnés, mes armées ébranlent la guerre.
On entend le comédien Christophe Bro lors d'une de vos conférences. C'est l'un de vos livres, Moab, qui est une épopée en 22 chants, un poème épique d'une bataille imaginaire, mais raconté avec les bribes de toutes les batailles ayant eu lieu depuis les débuts de l'humanité. Et on trouve dans ce texte des morceaux de plein d'autres textes. Et en fait, quand je vous entends parler depuis le début de cette émission, j'ai l'impression que vous êtes habité par une sorte de cœur, comme un cœur antique, un cœur de tragédie, vous savez, qui résonne d'une seule voix, mais c'est toute l'humanité qui résonne dans cette voix.
Oui, alors il y a peut-être 2 explications à votre sentiment, que je partage. C'est d'abord que, quand j'ai commencé l'Encyclopédie des guerres, c'est d'abord porté par une curiosité pour la nature orale de la littérature, et donc pour Homère. C'est-à-dire que c'est être bien peu conscient de ce qu'est la culture à l'échelle de l'humanité, que de croire que toute la littérature se trouve dans les bibliothèques et toutes les formes d'art se trouvent dans nos musées. La dimension orale de l'art, pas simplement de la littérature, est évidemment énorme encore aujourd'hui. Et donc le fait que l'Iliade soit pour moi le début de l'Encyclopédie des guerres, soit le début de cette épopée qui est aussi Moab.
Mother of all the battles. Voilà, là, c'est une mère, ce n'est pas un père.
Exactement, contrairement à Héraclite, pour moi c'est une mère. Et donc c'est l'idée que tous ces bruissements de voix, toutes ces voix qui ont pris la parole, Non, pas des voix autorisées, c'est pas simplement des dramaturges, des poétesses, des hommes de lettres, des hommes de droit, c'est des victimes, ce sont des soldats eux-mêmes qui ont pris la parole par intermittence, occasionnellement, pour dire la guerre, non pas pour la célébrer, mais pour la dire, et que ce cœur dont vous parlez est sûrement composé de toutes ces voix.
Wenn ich agiere will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter. Ich bin der Zorn Gottes.
Klaus Kinski dans Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog. Une réplique, Jean-Yves Jouannet, que vous avez placée en exergue de votre roman Une forêt chez Albin Michel. Si moi, Aguirre, je veux que les oiseaux meurent sur les oiseaux mourront sur les arbres. Et dans l'extrait qu'on a entendu, il a ajouté « Je suis la colère de Dieu ». Pourquoi Aguirre ?
Pour cette phrase-là. Cette phrase-là, puis une autre phrase qui se trouve au même endroit du livre, qui est une citation de Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, où il évoque cette chose assez perturbante et merveilleuse, où il dit, sur les rives de l'Orénoque, parle d'un fleuve évidemment, sud-américain, au sommet des arbres, des familles de perroquets prononcent des phrases. Je la lise. Donc, Chateaubriand, des peuplades de l'Orénoque n'existent plus, il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres.
Ça me permet d'entrer de plein fouet, enfin, dans le sujet de votre dernier livre, Jean-Yves Jouannet. Nous sommes en 1947, le capitaine de l'armée américaine et juriste Jacob Lenz arrive à Brême, ville dévastée, appelé par un tribunal pour une affaire hors du commun. Savoir que faire des oiseaux parleurs qui chantent des hymnes nazis dans la forêt environnante. Vous avez imaginé ça comme un peu comme un conte absurde contemporain. Vous faites référence à Grimm d'ailleurs en parlant de la forêt au début. Et alors la première chose que j'ai remarquée, il y a la mélancolie évidemment, on va y venir, mais c'est que c'est très sensoriel. Il y a beaucoup de matériaux, cobalt, étain, mercure, antimoine, arsenic, relan de lignite, qui est un charbon fossile. Parce que moi, je suis folle du tableau périodique des éléments. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer ça. Quel est votre rapport à ça, vous qui avez reçu le prix Roger Caillois, qui lui était fou de minéraux ?
Alors, la chose incroyable, vous me racontez des choses très bouleversantes tout de même, parce que la première version du texte, chaque élément chimique était accompagné de son symbole, entre parenthèses. Je trouvais ça très beau, j'avais très envie de ça.
Ah bah c'est très beau.
Ah, ça vous plaît aussi, mais j'ai entamé un autre livre où ça demeurera, j'y tiens beaucoup.
Ah bah je l'attends.
Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, on en parlera peut-être après, vous me direz franchement ce que vous en pensez, mais ça peut sembler très lourd, mais j'aime beaucoup l'idée que voilà, le symbole apparaisse à côté de l'élément chimique. C'est un conte qui fait ressusciter un personnage, parce que ce Jacob a existé. Hein, on peut en parler tout de suite, peut-être, ce Jacob Lenz est un personnage emblématique de la littérature pré-romantique allemande. Je n'ai pas changé ni son prénom, ni son nom, et je le ressuscite à une époque autre de l'Allemagne où il a vécu, à la fin du XVIIIe siècle. Et donc c'est un dramaturge, le vrai Lenz, c'est un dramaturge qui meurt en 1792, dans la misère, dans la folie, et pourrait-on dire dans la rue, puisqu'il meurt dans la rue à Moscou. C'est une vie tragique qui s'achève par des accès de folie. Et c'est Büchner qui, à la fin de sa vie, décide de rendre compte de Lenz dans un texte qui demeura inachevé, puisqu'il meurt en 1837, et donc en 1939 qu'est publiée cette nouvelle, qui s'appelle Lenz, tout simplement, et c'est Büchner qui propulse véritablement Lenz dans les lettres modernes allemandes, mais pas simplement, puisqu'aujourd'hui, des gens comme Olivier Cadieux, Rudolf Berger tournent autour de ce personnage-là, et je rappelle que, dès la première page de l'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, il est question de ce Lenz-là, de ce même Lenz dont moi, j'ai désiré m'emparer, pour parler, moi, de la mélancolie. Pas tant de la folie, mais de la mélancolie et de la solitude.
Et des ruines.
Et des ruines.
Vous aviez déjà consacré un ouvrage aux ruines. Qu'est-ce qui vous fascine dedans ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revenir à cet état, puisque vous décrivez Brême dévastée, avec plus d'œuvres dans les musées, tout a brûlé ?
Oui, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment l'exprimer vraiment très très intelligemment cette chose-là, à savoir que je ne m'intéresse aux choses que je ne comprends pas. Enfin, ça me semble naturel, et donc les ruines, ça commence par cette phrase de Chateaubriand. C'est des perroquets qui ont appris par cœur des phrases de tribus qui ont disparu, tuées par les conquistadors, et qui transmettent à leurs descendants ces mots qui n'ont a priori pas de sens pour eux et qui continuent à les chanter, à les jacasser dans les arbres. S'agit-il de ruines ? Voilà. Est-ce que les ruines, ce sont simplement des pans abattus de murs, des champs de gravats ? Peut-être, mais moi, ça ne me satisfait pas vraiment. Voilà, donc c'est jusqu'où on peut étendre le champ des ruines, pourrait-on dire, qui m'intéresse. Et c'est pour ça que le champ des oiseaux, ce champ des oiseaux, dans une forêt, est aussi une ruine d'un troisième Reich déchu.
De l'opéra de Gluck Iphigénie en Aulide, qui est un morceau qui a inspiré Étienne-Nicolas Méhul pour son opéra Joseph, qui lui-même a inspiré la chanson populaire Der Abenteurer, pardon pour mon allemand, qui elle-même a inspiré le chant nazi, et là Jean-Yves Joannet, j'ai besoin de votre aide, Horst Wessellied, c'est ça ?
Horst Wessellied, oui.
Horst Wessellied, et je vous laisse nous dire de quoi il s'agit.
Le Horst Wessellied, c'est le premier hymne nazi, pourrait-on dire, puisqu'en fait c'est le nom d'un martyr de la SA, les sections d'assaut qui sont formées dès les années 20 pour aider et propulser Hitler lors de son premier coup d'État. Et Horst Wessel est tué par un communiste dans une bataille de rue et on lui écrit une chanson. On lui écrit pas une chanson, c'est d'après des paroles de ce même Horst Wessel qui sont mis en musique et qui deviennent dès 1933 le véritable second hymne de l'Allemagne nazie.
Hymne qui sera interdit lors de la période de dénazification, mais qui est chanté dans votre roman par des ménates, dont je vous laisse dire le magnifique nom en latin qui fait penser à la fois à Dracula et à de la grâce.
Dracula religiosa.
C'est magnifique. Ces ménates existent-ils ?
Ils existent. Je ne sais pas s'ils existent à l'endroit où je les ai fait chanter, mais ils existent véritablement. Moi, je peux vous dire ce qui m'a inspiré le livre. Je ne peux pas vous dire si c'est une histoire vraie, en revanche.
Qu'est-ce qui vous a inspiré le livre ?
Ça remonte à 1995. Et c'est un artiste qui s'appelle Carsten Oller, d'origine belge, qui a vécu en Allemagne longtemps et qui était biologiste par ailleurs et qui avait fait une œuvre en 1995 qui s'appelait « Pinson amoureux », traduit en français, ça, quelque chose comme ça, qui était inspiré, disait-il, d'une histoire, d'un baron prussien qui désirait séduire une femme qui lui résistait et avait dressé à des chants d'amour une population de bouvreuils. Et ces bouvreuils avaient chanté leur chant d'amour, appris par cœur à cette jeune femme qui avait cédé, définitivement conquise. Mais ce que racontait Carsten Oller, c'est qu'en fait, ces bouvreuils avaient continué dans la nature à transmettre ce chant qui avait perduré jusqu'à la fin du 19e siècle. Et il avait fait une vidéo, c'est une installation, où il tentait d'apprendre à des pinsons des chants d'amour. Et c'est lui qui m'avait raconté cette histoire de chants nazis. Mais sans préciser si c'était vrai ou pas, et c'est à l'entrée de l'encyclopédie de guerre qui s'appelle Gazouillis, où je racontais des épisodes de guerre diverses, où des animaux volants, des volatiles, avaient appris le bruit des balles ou à imiter des explosions d'obus, que m'était revenu ce souvenir, mais de manière tout à fait immaîtrisée. Et j'avais raconté cette histoire-là et je m'étais dit, j'aimerais bien en faire un livre.
Eva Bester, la 20e heure sur France Inter.
Jean-Yves Joannet, avant de revenir à votre roman Une forêt, pourriez-vous nous dire un mot de la découverte que vous avez choisie pour les auditeurs ? C'est le premier roman de Salomé Botella, Pas si temps, paru le 9 janvier dernier, aux éditions de L'Ogre.
Oui, Salomé Botella, ça a été un coup de foudre, on peut parler de choses comme cela. C'est une étudiante aux Beaux-Arts, dont j'étais... Alors, j'ai un peu à voir avec le livre, sa parution. en tout cas. Puisqu'en fait, j'étais censé suivre son mémoire, comme la plupart des professeurs dits de théorie aux Beaux-Arts. Et Salomé Botella, je la connaissais peu, elle me disait « En fait, je ne sais pas écrire, je n'écris pas, je n'ai jamais écrit. » Et donc, à un moment donné, je lui dis mais tout de même. Et elle m'a dit « En effet, quand j'arrive à l'atelier, je prends des notes, quelques notes, en prenant mon café. » Je lui dis « Mais est-ce que tu voudrais bien me faire lire tes notes ?» Et elle m'a montré ses notes, et en deux pages, j'ai été bouleversé. C'était un livre, un très grand livre, qu'elle avait écrit, selon elle, par inadvertance. Voilà. Et donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais t'aider à trouver un éditeur. Et je me suis employé à appeler 4 éditeurs, le lendemain, qui se sont battus pendant 4 mois pour l'avoir. Et c'est l'édition de L'Ogre qui l'a publié. Donc, c'est sorti le 9 janvier dernier. Et je sais pas trop, je n'ai pas compris ce que c'était, en fait. J'ai été bouleversé. J'aime bien aussi les... Il y a des grands auteurs comme ça... Roberto Bolaño, par exemple, je serais incapable de dire pourquoi ça me bouleverse. Flaubert, j'arrive à expliquer ce qui me plaît, pourquoi je suis bouleversé par cet adverbe en fin de phrase, pourquoi j'arrive à visionner ou je crois comprendre ce qui me bouleverse. Et il y a des auteurs comme Faulkner. Faulkner, je ne sais pas expliquer pourquoi on sent la torpeur. Eh bien, Salomé Botella, je ne sais pas. Pour la même raison, ce qui me bouleverse, mais c'est très grand.
On mettra évidemment la référence sur le site internet de l'émission, et je reviens à votre roman Une forêt paru chez Albin Michel, puisque le héros, Lens, demeure hanté par des questions sans réponse. Ça fait évidemment penser à vous, Jean-Yves Jouannet. Et il y a une chose frappante à la lecture, c'est que vous disiez tout à l'heure que c'était un livre sur l'ennui et la mélancolie. En effet, Lens veut épuiser le temps, et vous écrivez aussi « La guerre s'était absentée, lui-même ne l'avait pas faite ». Là, on pense à nouveau à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et la paix semble presque triste. Et vous écrivez « Lens faisait le touriste sangler dans son uniforme de guerre par tant de paix ». Est-ce que vous auriez aimé la faire, la guerre ?
Non, pas du tout. Et puis c'est surtout que je pourrais répondre de manière très détournée et plutôt... alors là, je suis sûr de moi. C'est qu'en fait, c'est pas du tout... C'est peut-être pas un roman de paix, mais c'est sûr que c'est pas un roman d'après-guerre. Dans le sens où s'il y a une chose dont j'ai eu l'intuition en faisant l'Encyclopédie des guerres, c'est qu'on n'entre jamais en guerre et on n'en sort jamais. Voilà, c'est comme le fleuve d'Héraclite. Déclarer la guerre, ça veut dire une chose... qu'on croit comprendre, à savoir qu'il y aurait un temps où la paix existe et puis soudain on déciderait qu'on passerait à un autre régime qui serait son contraire, mais c'est absolument pas ça la réalité. Déclarer, c'est d'une famille de verbes qui veut dire éclairer. Il y a la guerre et soudain on décide de l'éclairer, de la mettre en lumière. La guerre, elle a toujours existé entre toutes les nations, malheureusement. Donc éclairer la guerre, déclarer la guerre, c'est juste reconnaître que c'est un continuum morbide qui n'a pas d'exception. Moi, comme vous, je n'ai connu que la guerre, pourrais-je dire.
Sans la connaître.
Sans la fréquenter.
À un moment, vous parlez de votre héros, et c'est sur cette question que j'aimerais achever cet entretien. Il s'est spécialisé dans les grands perroquets et la psychologie animale, et à un moment de sa carrière, il a fréquenté un perroquet du nom de Yann, auquel il a posé les seules questions qui vaillent, c'est ce que vous écrivez. Quelles questions poseriez-vous à ce perroquet s'il existait ?
Bon, je sais pas, mais bah Yann, il s'appelle Yann parce que Yann Curtis, je réponds à côté, hein. Pardon, mais pour le coup, la question de la mélancolie et de son secret, c'est à Yann Curtis que j'aurais aimé la poser. Yann Curtis, c'est le chanteur de Joy Division. Je parlais de ma découverte de Cure en 1981, et je découvre Joy Division dans le même mouvement. Yann Curtis, ça a été dans ma vie ma seule idole, pourrais-je dire, qui meurt à 23 ans comme Buchner, d'ailleurs. Donc c'est comme une histoire de jeunes gens fabuleux qui meurent à 23 ans. Et voilà, moi j'ai dépassé cet âge depuis longtemps, et j'aimerais savoir... c'est la question que je lui poserai, voilà, le secret de la mélancolie et du génie mélancolique.
J'ai publié pour une raison bien simple. J'avais vraiment l'impression, lorsque je suis rentré en France, et puis surtout lorsque les années ont commencé à passer, que tout le monde ignorait qu'il n'y avait même jamais eu des forces aériennes françaises libres. Les parents de mes camarades ne savaient même pas ce qu'étaient devenus leurs enfants, ce qu'ils avaient fait, comment ils avaient vécu. C'est la raison pour laquelle j'ai publié cet ouvrage.
En effet. Seulement, il faut dire aussi que vous êtes revenu, vous avez eu beaucoup de chance, car je crois savoir que nombreux sont vos camarades qui ne peuvent pas venir ici témoigner aujourd'hui.
Les pertes que nous avons subies là-bas étaient effrayantes. Un chiffre, un simple chiffre que tout le monde ignore d'ailleurs en France. Sur 537 et pilote des forces aériennes françaises libres. 34 étaient vivants encore le jour de l'armistice. Tous tués en action.
C'est énorme.
C'est épouvantable.
En effet.
C'est une proportion que l'on retrouve pratiquement dans aucune unité d'aucun genre.
On entend Pierre Klostermann sur la RTF en 1949 au sujet de son livre « Le Grand Cirque » que vous avez lu à l'âge de 10 ans dans la bibliothèque verte Jean-Yves Jouannet, sans savoir que c'était les vrais souvenirs d'un combattant.
Oui, c'est de drôles de tours que jouent les éditeurs aux enfants, aux jeunes gens. Il n'existait pas à l'époque ce qu'on appelle l'édition jeunesse, enfin Bibliothèque Verte, Rose, oui, bien sûr. Mais Bibliothèque Verte, c'était le passage à des lectures plus matures, pourrait-on dire, où on lisait ça entre 10 et 11 ans. Et on s'attendait peut-être à y découvrir d'autres types de romans, c'était Jules Verne en particulier. Et moi, lisant Klostermann, je pensais lire l'équivalent de ce type de romancier. Et c'est bien après que j'ai compris que c'était un récit réaliste, un témoignage de guerre. Et on ne m'en avait pas prévenu, en tout cas.
Du 21 au 25 janvier, le CNL organise des événements gratuits dans toute la France et à l'étranger à l'occasion des Nuits de la Lecture. Et afin de nous associer à l'événement, on propose à nos invités une carte blanche toute cette semaine. Jean-Yves Jouannet, vous avez choisi de lire un extrait des Larmes de Pascal Quignard.
Oui, il s'agit d'un extrait des Larmes de Pascal Quignard, 2016. Ça s'appelle précisément « Les sacrements d'Argentaria ». Début octobre 841, Nithard et Charles le Chauve sont à Paris, dans le palais de Saint-Cloud. Nithard note dans son livre à la date du 18 octobre 841, à 6h57, la merveilleuse étrangeté qu'il découvre au-dessus des cimes des arbres du bois de Saint-Cloud. C'est une éclipse de soleil, sur quoi il termine le deuxième livre de son histoire. Début février 842, les deux armées victorieuses lors de la bataille de Fontenoy se retrouvent à Strasbourg, dans un froid glacial, où elles s'établissent, l'une sur la rive de l'île, l'autre sur la rive du Rhin. À mi-chemin, dans la plaine glacée, le vendredi 14 février, à la fin de la matinée, les deux rois et les chefs, les ducs des tribus, portent solennellement un serment de paix entre eux et concluent devant Dieu un pacte d'entraide, maléficiente, sacrée, contre l'autère. C'est alors que, le vendredi 14 février 842, à la fin de la matinée, dans le froid, une étrange brume se lève sur leurs lèvres. On appelle cela le français.
Merci Jean-Yves Jouannet pour cette lecture. Toute la programmation est à retrouver sur le site nuitdelalecture.fr et je rappelle que vous pouvez retrouver sur l'application de Radio France plein d'autres lectures dans les émissions « Ça peut pas faire de mal » de Guillaume Gallienne et « Les admirations littéraires » dont les maîtres de cérémonie changent régulièrement. À la fin de l'émission, j'aime bien donner des recommandations. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous recommanderiez aux auditeurs de la destruction comme élément de l'histoire naturelle de Sebald ?
Voilà. C'est un livre capital qui n'est pas un livre de Sebald à proprement parler, puisque c'est
C'est le recueil des conférences.
Voilà. Donné à Zurich quelques années avant sa mort. Et c'est un récit absolument passionnant, très combatif pour le coup, et il s'en prend très, avec beaucoup de virulence à des prétendus grands écrivains allemands, et il n'en voit que un ou deux, dont Alexander Kluge d'ailleurs, dont il dit « Oui, ces gens-là ont dit la guerre de manière assez juste ». Parce qu'il est difficile de dire justement la guerre, et ces deux conférences ont été très lumineuses pour moi.
Merci beaucoup Jean-Yves Jouannet.
Merci à vous.
Une forêt est parue chez Albin Michel. Vous serez à la Maison de la Poésie le 27 janvier. Et toutes les dates de signature dans les librairies sont à retrouver sur le site d'Albin Michel. Cette émission a été réalisée par Étienne Bertin, préparée par Céline Villegas, Louise Morfois et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïc Frapsos.